les enjeux internationaux.
Par exemple, avec vous, Thierry Garcin. Bonjour Thierry.
C'est une bonne idée. Bonjour Guillaume Erner. Alors, fin du Conseil européen qui se tenait hier et avant-hier, au lendemain du Brexit, les dirigeants européens ont annoncé hier qu'il n'y aurait pas de marché unique à la découpe au profit du Royaume-Uni. Marché unique, c'est la libre circulation des biens, des capitaux, des services et des hommes. Aujourd'hui, notre partenariat avec la revue internationale est stratégique. Le dossier de ce trimestriel, donc, État-Nation-Mondialisation, sous la direction de Didier Billion, et notre invité, l'un des contributeurs, Maxime Lefebvre, diplomate et professeur à Sciences Po. Donc le départ du Royaume-Uni et de l'Union européenne est un événement considérable qui aura des conséquences multiples, en cascade et avec des délais plus ou moins longs. Alors conséquences d'abord pour Londres, ensuite pour Bruxelles, enfin pour chacun des pays européens, à commencer par l'Allemagne et la France. Certains parlent de refonder l'Europe communautaire sur un projet clair et respectant le poids des opinions publiques, des peuples, opinions publiques en ce moment peu encline à plus de fédéralisme ou d'intégration politique. Elles sont eurosceptiques souvent et dans certains cas même europhobes. En plus, il y a des courants populistes d'extrême droite qui sont vigoureux et inscrits désormais dans la durée. La marge de manœuvre, évidemment, est étroite. Sur l'ensemble de ces questions, Maxime Lefebvre, diplomate et professeur à Sciences Po.
Je crois que ce vote britannique a deux significations. La première, c'est que c'est un vote de défiance de plus des opinions sur l'Europe. Et c'est vrai que c'est aussi perçu comme ça dans d'autres pays membres de l'Union européenne. Et en même temps, c'est un vote aussi de clarification, dans la mesure où le Royaume-Uni a toujours eu un pied dedans, un pied dehors. Et donc, il n'a jamais adhéré complètement à l'idée d'un projet politique européen. Il a plutôt adhéré à un marché commun. Et donc, le fait de sortir, il n'était pas dans la zone euro, il n'était pas dans Schengen. Il a toujours insisté sur le juste retour, le fameux chèque britannique. Donc, le fait que maintenant les Britanniques soient dehors peut aussi amener une Union européenne plus cohérente autour de la zone euro.
Qu'est-ce que vous pensez, Maxime Lefebvre, de ceux qui disent par exemple qu'il faut refonder le projet européen? Et je rappelle que donc, vous êtes l'un des auteurs de ce dossier de revue internationale et stratégique, nos amis de l'IRIS. Donc, et c'est un dossier sous la direction de Didier Billion intitulé État, Nation, Mondialisation. Et vous avez donné un article justement qui s'intitule L'Union européenne entre nation et mondialisation. Deux points, le chaînon manquant, point d'interrogation. Vous êtes également d'ailleurs l'auteur de la deuxième édition, donc dans les que sais-je, Presse universitaire de France, de celui consacré à la politique étrangère européenne.
Oui, alors j'ai répondu au titre qu'on m'avait suggéré, le chaînon manquant, point d'interrogation, mais pour moi ce n'est pas un chaînon manquant. Je crois d'une part que l'Union européenne est une organisation tout à fait utile dans la mondialisation, qu'elle peut jouer un rôle, qu'elle correspond à une réelle assise en termes d'identité de l'Europe occidentale, moins certains pays protestants du Nord qui sont plutôt sur une logique séparatiste, comme le Royaume-Uni. Et puis, en même temps, c'est une organisation qui a une vraie cohésion, notamment à travers l'intégration monétaire, qui veut jouer un rôle politique, qui peut influer sur la mondialisation. Alors, c'est plus compliqué sur les questions stratégiques, politico-militaires, mais je crois que l'Union européenne, c'est quelque chose qui existe et qui peut jouer un rôle. Maintenant, est-ce qu'on peut intégrer davantage le projet européen? Ça, ce sera évidemment une question qui va se poser après le Brexit, mais c'est compliqué, on le voit bien, parce que jusqu'à maintenant, on a toujours concilié les élargissements avec l'intégration. Et on voit bien qu'aujourd'hui, les peuples ont moins d'appétit pour l'intégration. Donc, ce qu'il faut, c'est coordonner davantage les politiques, avoir une politique européenne qui marche, avoir une certaine convergence macroéconomique dans la zone euro, travailler ensemble sur la politique étrangère. Mais ce sera difficile de faire de nouveaux abandons de souveraineté. Pour répondre à la crise des migrants, par exemple, on voit bien qu'il faut renforcer le contrôle de la politique extérieure, qu'il faut travailler sur l'accueil des migrants, la coordination de l'asile, mais on peut pas non plus complètement déléguer au niveau européen ce qui reste de prérogatives nationales dans ces domaines, qui sont des domaines extrêmement sensibles.
Oui, parce que là, c'est sensible, ne serait-ce que par le poids des opinions publiques d'un pays à l'autre. C'est-à-dire que là, c'est tout à fait considérable. On l'a vu dans l'affaire des migrants, mais on le voit dans d'autres dossiers.
Bien sûr. Alors, il y a des domaines où l'Europe est intégrée. C'est tous les domaines économiques, etc., monétaires. Mais même dans ces domaines-là, il faut de la coordination intergouvernementale. Si vous regardez par exemple la coordination de la zone euro, on a besoin d'une convergence macroéconomique entre la politique des pays du Nord, et en particulier de l'Allemagne qui a des excédents colossaux de balance des paiements, et qui a besoin de relancer sa demande, et puis des pays comme la France ou d'autres pays du Sud qui ont besoin de faire des réformes et d'être plus compétitifs. Donc là, il y a une convergence à avoir, et cette convergence, elle ne peut pas s'imposer. Il faut qu'elle soit progressive, qu'elle soit appropriée par les opinions et par les politiques.
En même temps, on a l'impression, on en est même sûr souvent, que le projet fédéraliste à la Maastricht, c'est-à-dire de 92-93 pour simplifier, est en grande partie périmé. C'est-à-dire que il n'y aura pas à terme, même à horizon humain, un État européen ou en tout cas un gouvernement économique, un gouvernement a fortiori ultérieurement politique, et que là on a quitté les purs de Maastricht.
Bah, Maastricht n'était pas un fédéralisme. Jacques Delors avait parlé à l'époque de fédération d'États-nations. Il ne faut pas oublier que les États-nations sont là.
C'est-à-dire que d'ailleurs un peu, on avait une sorte d'oxymore de mariage de la carpe et du lapin.
Oui, bien sûr, mais de toute façon, en politique, il faut toujours marier les contraires, il faut toujours gérer l'ambiguïté, faire des compromis.
En démocratie, c'est compromis.
Et l'Europe, encore plus que la démocratie, ce sont des compromis. Donc, on a des éléments fédéraux, comme la monnaie, des institutions communes, le droit européen, etc. Et puis on a des éléments de coordination intergouvernementale. Et comme a dit Van Rompuy, l'ancien président du Conseil européen, le choix n'est pas entre méthode communautaire et méthode intergouvernementale, mais entre une solution européenne et pas de solution du tout.
Et la difficulté, en fait, en pratique, c'est qu'il y a trois niveaux qui se superposent, mais qui se croisent. C'est le niveau intergouvernemental, le niveau confédéral, parce qu'il y a des éléments de confédération, puis le niveau fédéral, l'euro étant évidemment l'exemple le plus patent et le plus évident.
Oui, tout à fait. Il faut concilier ces différents éléments pour avoir une gouvernance qui marche. Mais ça se fait pas du jour au lendemain, ça prend du temps.
Est-ce qu'on peut imaginer que le Brexit puisse avoir d'une certaine façon des effets positifs induits sur ou les institutions européennes, leur fonctionnement et des effets positifs sur le rôle de l'Europe dans le vaste monde? Alors, Maxime Lefebvre.
Le Brexit, évidemment, va réduire le poids de l'Europe en termes économiques, de population, etc., et même de richesse, parce que le Royaume-Uni a apporté une contribution nette, par exemple, pour les pays moins développés de l'Est. Donc, il faudra voir comment on compense ça ou si on le compense pas. Mais en même temps, le Royaume-Uni va lever certains obstacles, par exemple sur les questions fiscales ou sur la politique de défense. Par exemple, le Royaume-Uni ne voulait pas un quartier général européen. C'était un vrai blocage pour l'Europe de la défense. Peut-être que ce blocage peut être levé. Ça veut dire aussi que l'Europe va devoir maintenant gérer sa relation avec le Royaume-Uni comme un partenaire extérieur avec lequel il faudra négocier. Il y aura des intérêts différents, donc ça va prendre aussi de l'énergie politique. Et puis, le sorti du Royaume-Uni va renforcer le poids relatif de la France dans l'ensemble européen à 27.
Mais il y a quatre grands pays, il n'y en a plus que trois.
Non,
il y avait quatre ou six,
si on compte la Pologne et l'Espagne. Mais le nombre de voix de la France, par exemple, par rapport à la population, va passer de 13 à 15%. Donc, notre influence va se retrouver, malgré tout, augmentée dans le système européen.
En ce qui concerne le Brexit, c'est un changement de pied, c'est un changement de l'assise globale de l'Union européenne. C'est, on l'a dit, pour le Royaume-Uni, un saut dans l'inconnu, mais aussi pour l'Union européenne. À chaud.
Moi, je ne crois pas que ce soit un saut dans l'inconnu, parce que le Royaume-Uni n'était pas un pays fondateur. C'est toujours un pays qui a eu un pied dedans, un pied dehors. Et donc, quelque part, je crois que ça clarifie les choses. Simplement, on va avoir une Europe plus continentale, peut-être un peu moins libérale, recentrée sur la zone euro. Mais ce qui est le plus inquiétant, évidemment, c'est que c'est un vote négatif supplémentaire des opinions. Et on voit bien que dans plusieurs pays, ça enclenche un débat sur faut-il un référendum, sur le futur de l'Union européenne, sur l'appartenance à l'Union européenne. Et ça, c'est évidemment un élément d'insécurité, évidemment.
Maxime Lefebvre, diplomate et professeur à Sciences Po, Revue internationale et stratégique.